encore le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off. La guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. Salut les amis, vous connaissez cette sentence de Paul Valéry qu'on vous rappelle chaque année aux alentours du 11 novembre. Alors vous le savez, le 11 novembre 1918 voit la fin officielle de la première grande boucherie mondiale. Or, on le sait peu, mais en 1919, un an après la signature de l'armistice, si l'on ne se bat plus en France et en Belgique, la Première Guerre mondiale continue à l'Est et dans les Balkans. Certains historiens parlent même de la guerre de 1914-1945, où le 11 novembre ne serait qu'une pause. Ce qui a changé la donne en ce début de XXe siècle, c'est la révolution russe de 1917 qui va accoucher de l'Union soviétique, pays que les puissances occidentales n'auront de cesse de combattre pendant 74 années, jusqu'à la fin de l'URSS en 1991. Et malgré ce qu'on nous raconte, en 1919, on se bat donc encore à l'Est. Et à l'Ouest, la guerre mondiale va couver pendant 21 ans avant d'éclater à nouveau en 1939. Parmi tous les facteurs qui vont engendrer la Seconde Guerre mondiale, figure le traité de Versailles qui humilie bêtement l'Allemagne sans rien solutionner, bien au contraire, comme on va le voir par la suite. Cette guerre de 14-18 qui continue en 19 et bien après, pour finalement ne jamais vraiment cesser, on en parle aujourd'hui avec nos deux copains profs d'histoire géo, Cédric et Daniel.
Salut Daniel.
Salut à tous.
Alors Daniel, en deuxième partie d'émission, tu vas évoquer ce calamiteux traité de Versailles de 1919, alors très vivement critiqué par l'économiste Keynes, tu vas nous en reparler tout à l'heure, mais tout de suite, rapide survol de la situation de 1919 avec toi Cédric, salut.
Salut.
Alors Cédric, on le sait peu, mais un an après l'armistice de 1918, en 1919, la Première Guerre mondiale continue.
La guerre continue, mais sous une autre forme. On n'est plus dans le conflit d'État à État comme on l'a eu pendant 4 ans, avec l'écroulement des différents empires, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire allemand qui s'effondrent effectivement en novembre 18.
Puis l'Empire ottoman.
Et l'Empire ottoman. Cependant, effectivement, la redéfinition des espaces territoriaux et la redéfinition des frontières n'est pas fixée avec l'armistice. Il y a des combats qui se mettent en place, notamment dans les Balkans, entre les différents pays, pour prendre l'avantage et négocier en position de force dans les négociations qui vont se mettre en place en 1919 et 1920. Ce à quoi s'ajoute une autre dimension. Il y a une guerre qui, elle, continue totalement, c'est la guerre civile russe, qui met en prise les Blancs et les Rouges. Alors les Rouges, c'est l'armée rouge menée par Trotsky et Lénine d'une part, qui doivent affronter des indépendantistes, notamment en Ukraine, qui tentent d'utiliser le désordre pour obtenir un État. On a aussi des bandes plus ou moins anarchisantes qui tentent d'obtenir l'autonomie, qui ne sont pas forcément d'accord avec les options des bolcheviks. On a aussi les Verts, c'est-à-dire des agrariens, pour qui la défense de la terre et la privatisation du sol pour les petits propriétaires est quelque chose d'important. Et il y a surtout les Blancs. Alors ces Blancs, ce sont les tsaristes, partisans de feu la famille tsariste qui a été assassinée. On y trouve forcément les forces de l'ancien régime, l'aristocratie, la noblesse, une partie également de gens issus du peuple, mais qui sont traditionnalistes. Et attention, tous ces braves Russes, parce que ce sont des Russes, ou des peuples qui sont sous la domination russe, vont trouver l'appui et le soutien des forces occidentales. C'est ainsi que l'on voit des contingents de soldats français, notamment sur le front Est, puisqu'il y a des Français qui avaient été envoyés dans les Balkans pour tenter d'attaquer l'Empire ottoman, qui vont avoir le soutien de soldats allemands.
Les mêmes qui s'étripaient quelques mois avant se retrouvent côte à côte contre les vilains bolcheviks.
Et oui, on a des photographies absolument incroyables où l'on voit sous l'étendard polonais des régiments étrangers, français et allemands, combattre ensemble contre les bolcheviks. Donc ce n'est pas une Europe en paix en 1919-1920. La guerre continue. On est dans un état également de misère économique et sociale absolument terrifiant. L'ensemble des pays, qu'ils soient vainqueurs ou vaincus, sont dans une situation financière catastrophique, sont dans une situation productive catastrophique. La faim règne et on voit effectivement des famines ou des disettes éclater dans beaucoup de pays, notamment d'Europe centrale, et ce qui va favoriser le développement aussi d'épidémies, notamment la fameuse grippe dite espagnole qui fit des millions de morts. Et donc on voit bien que la guerre continue bien après le 11 novembre 1918.
On peut dire à la louche que 14-18, ça fait au moins 20 millions de morts, hein, 10 millions de soldats plus 10 millions de civils. Cette grippe espagnole qui va se déclencher quelques années après fera 50 millions de morts.
Les chiffres sont toujours soumis à caution. Si on prend que les morts militaires, effectivement, on est autour de 9-10 millions de morts sur le sol européen. Ce à quoi on rajoute le génocide des Arméniens, autour de 800 000 à 1 million de morts. Alors là aussi, c'est difficile d'avoir une comptabilité précise parce que les états civils ne sont pas très clairs. Mais quid des morts civiles ? Tous ces morts-là, on a du mal à les comptabiliser. La grippe espagnole, c'est aussi dur d'avoir un chiffrage précis parce que ça démarre en Asie, en Chine, en Indochine. Et là aussi, c'est une grippe aviaire. Et là, on a assez peu d'archives qui nous permettent de retracer précisément le nombre de morts. Et ensuite, effectivement, ça va balayer l'ensemble de l'Europe et les populations affaiblies de l'Europe qui, en temps ordinaire, ne seraient peut-être pas morts de cette grippe. Ou bien le nombre de morts aurait été réduit. Pourquoi ? Parce que cette grippe aurait rencontré une population plutôt en bonne santé, plutôt bien nourrie, etc., qui avait des défenses immunitaires pour affronter ce genre de maladie. Et cette pandémie vient frapper une population qui est déjà dans un état d'affaiblissement physiologique très important. La comptabilisation dans des états où les états civils sont plus compliqués, ou bien par exemple dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, où l'état a explosé en plusieurs pays, forcément les comptabilités, c'est compliqué. Et je ne parle même pas de la Russie tsariste, qui avait déjà des archives et des états civils pour le moins approximatifs. Et là, effectivement, dans tous les conflits qui ont posé rouges et blancs dans la guerre civile...
Cette guerre civile russe, ça va être des dizaines de millions de morts aussi.
Oui, c'est des dizaines de millions de morts, pas tant par les affrontements directs, bon, il y a eu des batailles et des morts forcément, mais c'est plus par les conséquences sur la population. Les destructions des récoltes, les pillages par les différentes armées ont entraîné des famines. Plus ensuite, alors tout le débat sur l'Ukraine, la famine a-t-elle été organisée de façon volontaire ? Est-ce que l'Ukraine a été affamée de façon volontaire par les Russes rouges afin de détruire la révolte ukrainienne ? Ou bien est-ce que ce sont des conséquences malheureuses et non voulues du conflit ? Le débat est très partagé. Parce qu'en fait, l'Ukraine a connu deux phénomènes, effectivement, de famine massive. Il y a une famine pendant la guerre civile, 1919-1921, qui est provoquée par les conflits. Alors ensuite, est-ce qu'il y a eu un projet organisé ? Bon, c'est un sujet à débat. Et ensuite, il y a eu la deuxième famine qui a touché plus largement l'URSS, effectivement, lors de la collectivisation stalinienne, au début de la prise de pouvoir de Staline, entre 1928 et 1932. Donc évidemment, il y a deux périodes, effectivement, extrêmement meurtrières.
Et c'est la seconde qu'on appelle Holodomor. Autre point, les Polonais qui, dans l'historiographie, sont toujours représentés comme de pauvres victimes du vilain Staline. Dans l'immédiate après-guerre, les Polonais d'abord gagnent d'immenses territoires sur les Russes, parce que Lénine veut finir la guerre à tout prix. La Russie se retire du conflit en 1917. Ce qui n'empêchera pas les Polonais, après des gains territoriaux tout à fait conséquents, de continuer à faire la guerre à la Russie. Ce qui fait qu'on pourrait peut-être se dire aussi qu'à la guerre mondiale suivante, les Russes ne font que récupérer des territoires qui leur appartenaient et qui leur ont été volés par les Polonais après 1918.
La Pologne, ils ont un problème, c'est qu'ils se situent entre deux peuples assez expansionnistes. Pendant toute l'époque médiévale et moderne, ils sont pris en étau entre des poussées de populations germaines et des populations russes et des empires allemands et russes. Et la Pologne a connu des moments où, au contraire, elle constituait un État extrêmement puissant, où on a parlé de Grande Pologne avec une alliance avec la Lituanie, où là, elle avait de très larges territoires. Donc c'est toujours des territoires qui sont disputés en fait entre les trois puissances, entre l'Allemagne ou les peuples germains. Alors l'Allemagne, peut-être pas au sens premier, Saint-Empire romain germanique, Allemagne d'un côté, l'Empire russe d'un autre côté, et les Polonais. Et donc les lignes territoriales sont assez difficiles à définir. Où s'arrête la Pologne, où elle commence, où commence le peuplement des Russes et des Allemands. Et donc, après la Première Guerre mondiale, les Polonais ont vu un moment fort où ils pouvaient reconstituer une puissance importante et récupérer des territoires, pas tant contre l'Allemagne, parce que justement, il va y avoir un traité qui va fixer une ligne de partage, et ils ne peuvent pas pousser vers l'ouest, ce n'est pas possible, et donc ils vont tenter de pousser vers l'est, profitant de la désintégration de la Russie tsariste et des désordres liés à la guerre civile. Ils pensent tirer leur épingle du jeu en allant piquer quelques terres aux Russes. Ça fait partie de la guerre, quoi. Ils profitent des circonstances, en fait.
Tous les pays impliqués dans cette première guerre mondiale en sortent exsangues, avec des populations affaiblies, des systèmes agricoles et industriels complètement démolis. Tous les pays protagonistes sortent lessivés de 14-18, sauf un, peu impliqué militairement. Mais il y a un grand vainqueur, et surtout un vainqueur économique de ce premier conflit mondial, c'est les États-Unis.
Donc les États-Unis, effectivement, pour des raisons multiples, ne sont pas engagés en 1914 dans le conflit, pour des raisons intérieures. Il y a un vrai débat, comme toujours aux États-Unis, entre une dimension un peu impérialiste, interventionniste d'une part, et de l'autre des isolationnistes. Donc très clairement, Wilson, le président Wilson, sait qu'il aura du mal à avoir une majorité de députés prêts à s'engager dans le conflit. D'autre part, il ne faut pas oublier que les États-Unis, en 1914, c'est encore un pays de fraîche migration, et que vous avez un tiers de la population états-unienne qui est allemande à une ou deux générations. Et donc, il y a une peur d'un complot intérieur allemand. On sait qu'il y a des espions allemands qui essayaient de soulever la population. Ça n'a pas très bien marché. Mais il y avait l'idée d'une cinquième colonne intérieure avec une alliance avec le Mexique. Alors tout ça est resté un peu vaporeux et à l'état de projet. Donc Wilson se méfiait de cela, d'une déstabilisation intérieure. Il ne faut pas oublier que la guerre de sécession, c'est pas loin. Hein. L'unité des États-Unis, c'est pas clair. Donc il y a tout un tas de facteurs qui font que les États-Unis ne voient pas trop leur intérêt à aller s'engager dans un conflit lointain dont ils maîtrisent mal les enjeux.
Ils n'ont pas d'armée prête pour ça. L'armée états-unienne, elle s'est écrasée des sauvages armés de goyaves molles, appliquer la politique du big stick dans les Antilles, ou aller écraser des gens mal armés, ça ils savent se faire. Ce qui fait qu'ils arrivent assez tard pour combattre sur le sol français en 1917, et ils vont combattre en fait quelques mois.
Ils n'ont même pas d'armée de conscription. Au début, c'est une armée de volontaires. Et on voit bien que dans certains États, notamment le Texas par exemple, les volontaires ne se bousculent pas au portillon, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez, le paysan du fin fond des States allait envoyer son fils au casse-pipe, parce qu'en 1917, on sait ce que c'est la guerre, hein. C'est pas comme en 14 où effectivement il y avait un petit côté héroïque de la guerre. Là, ils savent que la guerre, c'est une guerre crado, c'est une guerre de tranchées, donc... au début, les engagements ne se font pas en masse et progressivement, ils sont plus ou moins obligés d'aller vers des systèmes de volontariat un peu forcés pour avoir une armée à envoyer en Europe. Alors, de cet engagement tardif, à bien noter que les États-Unis ne sont pas les alliés de la France et de l'Angleterre. C'est un État partenaire. Wilson dit bien que ce partenariat se fait à condition que ces clauses soient respectées dans un traité de paix qui devra être signé dans l'après-guerre et qui devra contenir ce qu'on a résumé sous les 14 points du président Wilson. Et donc, il impose une certaine forme de morale. Wilson était quelqu'un qui était très influencé par la morale, notamment celle de la diplomatie internationale, et qui devait être une diplomatie non plus bilatérale opposant des camps, mais une diplomatie ouverte et une diplomatie multilatérale, ce qui va donner la SDN, la Société des Nations, ancêtre de l'ONU. Et par exemple, il n'hésite pas à dénoncer publiquement les accords Sykes-Picot de partage de l'Empire ottoman. Les Français et les Anglais avaient promis monts et merveilles aux Arabes qui s'étaient révoltés dans l'Empire ottoman contre les Turcs. Et de l'autre côté, ils avaient pris des engagements auprès des sionistes pour garantir la création d'un foyer national juif. Tout ça pour pas dire un État juif en Palestine, en échange du soutien financier de la communauté sioniste. Et en fait, Sykes et Picot, les deux ministres des Affaires étrangères, avaient fait de belles promesses aux uns et aux autres, mais s'étaient entendus entre eux pour ne respecter aucune d'entre elles et se partager le gâteau du Proche et du Moyen-Orient. Et là, les Américains qui tombent là-dessus, ils les dénoncent publiquement, ce qui va créer des tensions. Donc on voit bien que les États-Unis s'engagent un petit peu à contre-cœur, à moitié, tardivement, avec des espèces de principes moraux qui ne correspondent pas tellement à la vision des Européens. Et donc dans l'après-guerre, et forcément dans le traité de Versailles, ça va créer un certain nombre de problèmes.
arrivons-en à notre fameux traité de Versailles, 1919, au sujet duquel on nous dit qu'il porte en lui les germes de la guerre suivante.
C'est un résumé que l'on fait parce que l'on voit un certain nombre de clauses du traité de Versailles perçues comme des formes de diktat, d'humiliation, qui auraient exacerbé un nationalisme allemand, qui aurait favorisé l'arrivée d'Hitler au pouvoir, blablabla. On va voir que c'est en partie vrai, mais c'est à nuancer. Hitler, à partir de quand remporte-t-il des succès électoraux ? À partir de 1929, très tardivement. Le parti nazi qui naît en 1920, très longtemps, va rester un parti groupusculaire, sans réel impact sur l'opinion publique. Donc, faire le lien direct, c'est un peu plus compliqué que ça. On va voir qu'effectivement, un certain nombre de clauses ont pu apparaître comme humiliantes, comme un diktat, mais on va voir aussi que ce traité qui était censé garantir la position dominante des puissances victorieuses, notamment la France, en fait, ce traité, il est mal gaulé. Excusez l'expression, mais il est mal gaulé. Et que, en fait, s'il porte en germe les éléments de la Seconde Guerre mondiale, c'est que, tout compte fait, il n'affaiblit pas si puissamment l'Allemagne que les clauses ne le laissent apparaître.
À noter d'ailleurs que ce traité de Versailles n'est absolument pas ratifié par les États-Unis.
Les Anglo-Saxons, pas seulement les États-Unis, mais aussi l'Angleterre, ils ont une vision de ce qu'on appelle l'équilibre européen. Pour eux, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait un équilibre sur le continent entre trois puissances. Les Français, les Allemands, les Russes. Quelle est la situation en 1919 ? La Russie est plongée dans une guerre civile épouvantable dont on ne connaît pas l'issue, dont on est sûr d'un seul élément, c'est qu'elle va sortir complètement affaiblie. L'Allemagne est dans une situation catastrophique d'un point de vue de la situation économique, financière et de l'alimentation. C'est un pays qui crève de faim en 1919. Et donc, appuyer totalement l'allié français en lui donnant tous les pouvoirs, toute la puissance, c'est un déséquilibre européen qui va faire que la France va être toute puissante et va nuire aux intérêts notamment coloniaux anglais. Et donc, il y a tout intérêt à renforcer l'Allemagne. Pas renforcer la Russie, parce qu'on ne sait pas ce que ça donne, et puis vu que les bolcheviks vont prendre l'avantage, on ne va pas quand même aider les bolcheviks, loin de là, même on va essayer de leur taper sur la gueule. Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen pour contrer la toute-puissance française, c'est de faire remonter l'Allemagne. Comment ? Eh bien, dans le traité de Versailles, il y a une clause qui impose ce qu'on appelle les réparations. C'est-à-dire que l'Allemagne doit débourser 132 milliards de marks or pour assurer la reconstruction des pays qu'elle a envahi et en partie détruit, notamment lors de la dernière phase où il y a eu une phase de terre brûlée et un certain nombre d'infrastructures ont été brûlées. Pas les usines Schneider, n'ont pas brûlé. Les usines Schneider ont été bien préservées. On voit ça dans le film La vie et rien d'autre. Il y a eu des accords entre grands industriels.
Les Schneider avaient des députés tant au Parlement français qu'au Parlement allemand.
Ce qui aide. Et donc, ces 132 milliards de marques or, ça représenterait aujourd'hui l'équivalent de 1500 milliards d'euros. Et que bien sûr, l'Allemagne ne peut pas rembourser. C'est pas possible. Il faut étaler la dette. La France veut être remboursée tout de suite. Sauf que c'est pas possible. Alors, que vont faire les banquiers anglais et américains tout au long des années 20 ? Ils vont négocier alors les plans, ceci et cela, qui visent à étaler la dette. Alors, le dernier plan, je crois que c'est le plan Debs, 1926 ou 1929, on était arrivé à étaler les dettes sur 80 années. C'est-à-dire que les Allemands auraient dû finir de rembourser en 1999. Un truc totalement incongru. Et même avec des étalements de dettes comme celui-ci, l'Allemagne ne pouvait pas rembourser. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Les banques américaines, parce que c'est elles qui avaient de l'argent, ont prêté à l'État allemand pour que l'État allemand paye les réparations aux alliés. Et comme ça, les alliés pouvaient rembourser les emprunts qu'ils avaient faits aux banques américaines. C'est quand même génial, hein ? C'est-à-dire que, en fait, l'argent circule pour que chacun rembourse les dettes de tout le monde, et qui s'enrichit à la fin ? Eh bien, les banques américaines. Et donc, les États-Unis, alors que ce soit en tant qu'État ou que ce soit en termes de propriétaires privés, notamment les grands banquiers, ont tout intérêt à la bonne santé économique de l'Allemagne et à une forme de stabilité économique et de stabilité politique. Alors, cette stabilité politique, elle peut prendre différents aspects. Tant que c'est une démocratie parlementaire comme l'était la République de Weimar, bon, oui, pourquoi pas. Ensuite, si c'est les nazis, pourquoi pas non plus. Tout compte fait, du moment qu'ils remboursent leurs dettes, qu'ils composent un pays puissant qui fasse barrage au bolchevisme et à l'URSS, pourquoi pas.
Jusqu'à aujourd'hui, la dictature, c'est pas bien, mais au moins c'est stable.
Tant que ça facilite vos intérêts, voilà, c'est de la réelle politique pure et dure.
L'Allemagne paiera, l'Allemagne paiera. En fait, l'Allemagne n'a pas payé grand-chose, ni d'ailleurs pour la Première Guerre mondiale, ni pour la Seconde. Enfin,
aux Grecs, par contre, les Allemands veulent faire payer à tout prix.
On nous raconte à longueur de médias que les Allemands, qui sont si vertueux, qui n'ont pas de dettes, c'est pas tout à fait exact, hein, puisque les Allemands n'ont jamais payé les dettes de la Première Guerre mondiale, ni même celles de la Deuxième.
En dehors de ces clauses financières dites des réparations, un certain nombre d'aspects effectivement, du traité de Versailles ont pu paraître particulièrement humiliants. Il y a un certain nombre d'humiliations.
Je trouve qu'il y a un truc qu'ils ont mal digéré, c'est que nos forces coloniales noires aillent occuper la Sarre.
C'est ce qu'on appelait la honte noire. En 1923, l'armée française va se déployer dans la Sarre et dans la Ruhr afin de prendre en nature ce que les Allemands ne voulaient pouvait pas payer en marque or. Et cette occupation a été effectuée en partie par des troupes coloniales, minoritaires, hein, c'est surtout des troupes blanches, mais ça a beaucoup marqué les Allemands. Pourquoi ? Parce que il y a eu toute une propagande pendant la Première Guerre mondiale, très raciste, qui présentait les soldats coloniaux comme des cannibales. Et donc quand ils les ont vus arriver, pour eux c'était une armée de cannibales qui débarquait, donc ça a été un choc pour la population, qui a été ensuite exploité hein, par les nationalistes de tout poil. Alors, comme toute armée d'occupation, les troupes d'occupation françaises ont commis des crimes, ont réprimé des grèves, ça a été ensuite exploité hein, par toute la propagande, notamment nazie.
Das sind die schwarzen Brüder des Poilu. Vor wenigen Tagen noch erklärte Chamberlain einem Amerikaner gegenüber, dass England und seine Verbündeten sich als Treuhänder der Zivilisation im Kampfe gegen mittelalterliche Barbarei fühlen. Das sind also die Treuhänder der Kultur.
Le traité de Versailles a été signé le 28 juillet 1919. Et c'était juste 5 ans après l'attentat de Sarajevo. La date n'a pas été choisie au hasard. Le lieu non plus n'a pas été choisi au hasard. Le traité de Versailles est signé dans la Galerie des Glaces de Versailles, là même où l'Empire allemand, le Deuxième Reich, avait été proclamé le 18 janvier 1871. Donc là, petite revanche de l'histoire, hein, on fait signer à l'endroit même où l'Allemagne du Deuxième Reich était née, c'est là où elle meurt définitivement. Les Allemands nous ont fait la même chose avec le wagon de rotonde, hein, là où a été signé l'armistice le 11 novembre 1918. Hitler, le 22 juin 1940, a fait signer les plénipotentiaires allemands dans le même wagon. L'affaire était finie. Donc, premier élément d'humiliation. Il y a aussi l'humiliation qui est infligée aux deux signataires allemands, Hermann Müller et Johannes Bell, les deux représentants du gouvernement allemand qui viennent signer hein, le traité de Versailles, ne sont pas traités de façon très courtoise. Quand ils arrivent à la gare de l'Est à Paris, ils sont accueillis par des anciens combattants dans une ambiance glaciale. Hein. Il avait été donné comme consigne ni applaudissements, ni cris hostiles, juste un silence de mort. Et ils sont convoyés ainsi dans un hôtel absolument miteux de Paris, où on les fait loger dans des conditions absolument infâmes. Dehors, hein, vous avez une garde d'anciens combattants, alors des gueules cassées, etc., au flambeau qui pendant toute la nuit, vous voyez, siègent autour de leur chambre d'hôtel. Ensuite, ils sont emmenés à Versailles et on ne les fait pas rentrer par la grande porte comme les autres participants. On les fait rentrer par un petit passage sombre hein, qui mène vers la Galerie des Glaces. Ils sont accompagnés d'anciens combattants à gueule cassée, avec des flambeaux qui les emmènent jusque-là et on les emmène au pied de la table. Et là, sans un mot, Clémenceau leur désigne du doigt l'endroit où ils doivent signer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à lire, vous signez. Donc on voit une forme d'humiliation, dans la forme même, qui a beaucoup marqué l'opinion publique allemande. L'humiliation, elle vient aussi des conditions extrêmement sévères. L'article 231 dit que l'Allemagne est la seule responsable de la guerre, alors que c'est plus compliqué que cela. L'Allemagne n'est pas la seule responsable de la guerre, mais c'est ce qui est dit. À ce titre, l'Allemagne perd 15% de son territoire, 10% de sa population, alors bien sûr l'Alsace-Moselle, mais aussi de larges territoires à l'est, notamment ce qui a composé hein, ce fameux corridor de Danzig où l'Allemagne est coupée en deux. Et il faut bien voir que la Prusse, qui est la puissance agissante hein, de l'unité allemande, se voit amputée de la plupart de ses territoires historiques et coupée en deux morceaux, une Prusse croupion complètement isolée au milieu du territoire allemand. Et on a là des germes de guerre par l'humiliation faite aux Allemands. Autre élément d'humiliation, c'est la perte de l'ensemble des colonies allemandes qui sont redistribuées à la Nouvelle-Zélande, qui le Japon, qui la France récupèrent les morceaux hein, de l'Empire allemand. Enfin, il y a les concessions militaires hein, qui sont faites par l'Allemagne. L'armée allemande est réduite à 100 000 hommes, sans armement moderne, interdiction d'avoir des avions, des tanks, et la démilitarisation de l'ouest de l'Allemagne empêche toute forme de revanche. Donc une paix extrêmement dure. Alors ça, ce sont des clauses qui ont été imposées par Clémenceau. Les Anglais et les Américains étaient beaucoup plus sceptiques sur cet aspect très dur du traité. Et donc, de façon assez galvaudée, on dit « Ah voilà, c'est à cause de ça, ça fait naître le nationalisme allemand, blablabla. » Que ces clauses aient radicalisé une partie de l'opinion publique allemande nationaliste, il n'y a point de doute. Hein. On voit effectivement prospérer des groupuscules d'extrême droite, hein, de droite nationaliste, qui vont tenter des coups d'État entre 1920 et 1923 contre le gouvernement de Weimar. Sauf que, on s'aperçoit que la population ne suit pas. Ça reste des groupuscules, certes très bien organisés, certes dangereux, mais dans l'ensemble de la population, ça a relativement peu de prise. Si on voit les résultats électoraux, on voit très clairement que c'est le SPD, hein, le Parti Social-Démocrate, qui emporte les élections, et le Zentrum, qui sont les partis qui ont accepté à contre-cœur Versailles, mais qui ont signé. Si on prend par exemple hein, lors des prémices hein, du traité de Versailles, les textes qui circulaient en préparation, le 16 juin, il y a eu un vote de l'Assemblée, il y a eu 237 voix pour l'acceptation et 138 contre. Donc on voit bien qu'il y a une division de l'opinion publique allemande. Mais l'Allemagne n'était pas prête à repartir en guerre en 1919 parce que les clauses du traité de Versailles ne lui allaient pas. Et là, je crois qu'il faut plutôt se tourner vers un auteur qui, aujourd'hui, est un auteur banni et pelu, parce que membre de l'Action française, de l'extrême droite, qui s'appelle Jacques Bainville. Et Jacques Bainville, en 1920, a publié un livre qui s'appelle « Les conséquences politiques de la paix ». Il fait une analyse à chaud, hein, 1920, hein, et extrêmement lucide de la situation, qu'il résume comme ceci. « Le traité de Versailles est trop doux dans ce qu'il a de dur, et trop dur dans ce qu'il a de doux. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ? Premièrement, il tient compte de la situation diplomatique internationale. Les Anglais et les Américains sont repartis dans une logique isolationniste. Parce que Wilson a perdu les élections législatives et que le Congrès a refusé de ratifier la participation des États-Unis à la SDN et a refusé de ratifier le traité de Versailles. Et à ce titre, les États-Unis ne pèsent plus dans la vie politique international. Les républicains vont prendre le pouvoir pendant tout le long des années 20, jusqu'à l'élection de Roosevelt en 1932. Ils sont profondément isolationnistes. Ils remettent en cause hein, l'intervention militaire de la Première Guerre mondiale et se disent bien qu'ils n'interviendront pas dans la deuxième. Les Anglais jouent le jeu des équilibres européens et ont une position très ambiguë vis-à-vis de l'Allemagne. Ne pas oublier que celui qui aurait dû être roi était un nazi convaincu. Hein.
C'est le fameux Édouard VIII, le frère du Beg.
Et heureusement, c'est le Beg qui est arrivé au pouvoir. Donc, les anglo-saxons, on ne peut pas compter sur leur appui face à l'Allemagne si l'Allemagne renaît de ses cendres. Deuxième élément de politique internationale, on est en 1920, c'est la guerre civile en Russie. Il dit quoi ? Si c'est les Blancs qui gagnent, le pays sera dans un tel état de délabrement et de désorganisation qu'il ne compose plus un allié intéressant. Donc c'est quoi nos alliances de revers ? Si on veut lutter contre une Allemagne renaissante, il faut avoir des alliances de revers pour la prendre en étau. On a quoi ? La Pologne et la Tchécoslovaquie.
C'est léger.
C'est extrêmement léger. Ensuite, il arrive sur le cas allemand lui-même. Il dit quoi ? Interdiction d'une unification avec l'Autriche. Puisqu'on a fait exploser l'Empire d'Autriche-Hongrie, les Autrichiens, c'est quoi ? Bah, c'est des Allemands. Donc il dit, l'opinion publique autrichienne tôt ou tard, va regarder du côté de l'Allemagne. Et qu'est-ce qu'on pourra faire le jour où les Autrichiens voudront s'allier avec les Allemands ? Dans le traité de Versailles, il y a l'acceptation des 14 points de Wilson, dans lequel figure le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si les Autrichiens demandent à être rattachés à l'Allemagne, au nom de quoi pourrait-on l'interdire ? C'est interdit par le traité de Versailles. Mais contre la volonté d'un peuple, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il souligne qu'il y a des minorités en Tchécoslovaquie, notamment dans les Sudètes, des minorités à l'échelle nationale, qui qui sont des majorités à l'échelle locale. Il dit dans les Sudètes, il y a des groupes germanophones qui ne demandent qu'à retourner dans le giron allemand. Pareil dans le couloir de Danzig, qui sépare les deux morceaux de l'Allemagne, où il dit, là, on a des germes de dissension absolument considérables. Et donc là, il y a un problème.
Une lucidité extraordinaire, parce que là, on a la marche de la guerre vers la Seconde Guerre mondiale.
Un, Anschluss, deux, les Sudètes, trois, le corridor de Danzig. Là, voilà, il les a dans l'ordre. Hein. Et il va plus loin. Il dit quoi ? Il dit, nous avons enlevé une partie de la puissance économique de l'Allemagne et une partie de la puissance financière. La fameuse dette qu'ils doivent rembourser. Sauf que il dit, bah, très clairement, ils ne paieront pas. Et même s'ils le peuvent, ils ne le feront pas. Et là, qu'est-ce qu'on aura comme moyen pour les faire plier ? On va envahir, alors voilà, ils prévoient ce qu'il va y avoir dans 3 ans, on va envahir leur zone productive. Mais les Allemands, ils vont se mettre en grève, ça va les renforcer dans leur francophobie, et donc ça va exacerber les tensions qui existent déjà. Là aussi, il a tout bon. Ensuite, il dit quoi ? Nous leur avons enlevé beaucoup de choses, mais nous ne leur avons pas enlevé la puissance politique. Il dit au contraire, nous avons fait naître un État centralisé et beaucoup plus efficace que ne l'était le Deuxième Reich. Parce que le Deuxième Reich, derrière ses atours d'un empire avec Guillaume, les grosses moustaches, Bismarck et compagnie, c'est quand même un régime fédéral dans lequel les États disposent d'un certain nombre de pouvoirs et disposent d'une large autonomie qui font que c'était toujours un frein face aux Prussiens qui étaient un petit peu expansionnistes, il faut dire ce qui est. Et on voyait bien que la Bavière, souvent, traînait des pieds pour déclencher une guerre, notamment toutes les puissances catholiques du Sud se méfient beaucoup des Prussiens. Et là, il dit quoi ? On fait naître un État plus centralisé, dans lequel le pouvoir central dispose de plus de possibilités de nous faire la guerre. Ensuite, il étudie les clauses militaires. Ah, très bien, là, en gros, les Allemands, ils se battent avec des arcs et des flèches, donc on est tranquille. Mais qui va vérifier ? Qui dit qu'il n'y a pas la reconstitution d'une armée en secret, etc. ? Parce que dans les années 20, il n'a pas fallu attendre Hitler. Hein, une large partie de l'armée remet en place des structures pour préparer la revanche. Sous les bons sociaux-démocrates qui dirigent la République de Weimar, il y a un ministère de l'Intérieur qui laisse faire dans les milieux militaires, la reconstitution d'un groupuscule dur avec le réarmement qui est déjà présent avant Hitler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre Hitler pour avoir une armée déjà qui a un sentiment belliqueux et au sein de l'armée, on voit bien se développer une armée de revanche. Sauf que la France et les alliés ne disposent d'aucun moyen véritable pour aller vérifier sur le terrain. Il n'y a pas de commission militaire, il n'y a rien. Ça, on en aura le souvenir après la Deuxième Guerre mondiale, où on ira occuper le territoire concrètement avec nos armées pour être sûr qu'il n'y a pas la renaissance d'une armée allemande. Mais là, on n'a aucun moyen de vérifier. Et donc, Bainville conclut quoi ? On aura une guerre dans moins de 20 ans, parce qu'on a voulu humilier les Allemands, on les a humiliés, sans avoir les moyens de maintenir cette humiliation sur le long terme. C'est-à-dire que quand vous humiliez quelqu'un, il faut être sûr qu'il ne puisse pas prendre sa revanche. S'il peut prendre sa revanche, il va la prendre. Et c'est à lire Jacques Bainville, hein, comme Keynes, hein, sur les conséquences économiques de la paix. C'est à lire parce qu'ils ont détecté, derrière la force apparente des alliés, et notamment de la France, tous les points de faiblesse qui vont éclater avec Hitler, qui va exacerber tout ça et va réussir effectivement à unifier les Allemands derrière une volonté de revanche.
Nos oligarchies financières, britanniques, françaises et autres, voient d'un très mauvais œil ce très fâcheux exemple soviétique, 1917. Bon, il ne faudra quand même pas que ça fasse tache d'huile, comme ça a manqué d'être le cas d'ailleurs en Allemagne en 1918 avec la révolution spartakiste, hein, une révolution de type bolchevique qui a éclaté mais qui a été réprimée dans le sang en Allemagne. Finalement, notre oligarchie financière voit cette URSS d'un très très mauvais œil. Et ne laissera-t-on pas finalement les Allemands faire tout ce qu'ils veulent, parce que le but en fait c'est de jeter les vilains nazis sur les vilains soviétiques. Nous on se planque qui derrière le Channel pour les Anglais, nous derrière notre ligne Maginot, et puis on envoie les affreux se foutre sur la gueule entre eux. Et résultat, on laisse les Allemands réoccuper la Sarre, on laisse les Allemands reconstituer une armée, on laisse les Allemands faire l'Anschluss. Les Sudètes, jusqu'au 1er septembre 1939, on laisse les Allemands attaquer la Pologne sans broncher. Et finalement, ce traité de Versailles, il sera pas appliqué parce que dans nos milieux dirigeants, on n'avait pas tellement envie de l'appliquer. On voulait instrumentaliser l'Allemagne pour qu'elle aille écraser la Russie bolchevique. Ça se fait un peu complotiste, hein, quand même, ce que je dis.
Non, mais l'oligarchie politico-financière. Car après les échecs des tentatives de révolution mondiale, 1920-1921, dans la politique extérieure de l'URSS, il y a l'idée de propager la révolution à l'échelle mondiale, etc. Bon, il y a une série d'échecs en Hongrie, en Allemagne, qui font que l'URSS, très très vite, bascule dans une diplomatie assez classique et qu'elle va tenter, que ce soit sous Lénine ou sous Staline, de nouer des contacts avec les chancelleries occidentales, notamment françaises, où à plusieurs reprises on était à deux doigts d'un accord, mais qui à chaque fois ont capoté parce que ça reste des rouges, quoi. Alors que d'un point de vue purement stratégique et militaire, il fallait une alliance avec l'URSS, c'est évident. Enfin, c'est une alliance de revers essentielle. Alors ça pose des problèmes avec les Polonais qui effectivement voient d'un mauvais œil la possibilité d'avoir une armée soviétique, mais aussi russe. Enfin, voilà, ils prennent les deux dimensions, passer par chez eux pour aller taper les Allemands. C'est vrai que les Polonais n'étaient pas très très chauds. Mais quand on fait de la politique, entre les Polonais et les Russes, on a vite choisi comme alliance. Enfin, dire, si on veut se protéger, notamment quand on voit que les nazis, à l'évidence, veulent leur revanche contre la France, ben c'est évident. Dès qu'Hitler prend le pouvoir, les deux premiers traits de son régime, c'est l'antisémitisme en un, et deux, la francophobie. Il veut buter la France, hein. Il y a une humiliation qu'il veut effacer. Et donc, forcément, on a tout intérêt à une alliance avec les Soviétiques. Enfin, c'est évident.
Le problème, c'est que c'est les Soviétiques.
Voilà. Et au lieu de ça, voilà, on va tergiverser, on va flatter les Tchécoslovaques, les Roumains, les Polonais, les Italiens. On fait la danse du ventre, hein, devant Mussolini. D'ailleurs, on a été prêts de signer un pacte avec Mussolini, hein. C'est, là aussi, c'est pas passé très très loin, hein, parce que Mussolini se méfiait énormément de l'expansionnisme allemand, hein. Notamment, il y a eu beaucoup de disputes sur la question de l'Autriche. Hein. Je vous rappelle que lors de l'Anschluss, la seule puissance qui est protestée, c'est l'Italie, officiellement, hein, et qui avait menacé de prendre les armes. On voit ça dans Le Dictateur de Charlie Chaplin. La dispute, hein, sur la question de... Alors c'est l'Osterreich, enfin je ne sais plus, dans le film de Charlie Chaplin. Alors que la France se contente d'un « c'est pas bien ». Mais on laisse faire, parce qu'on essaye de pousser l'Allemagne contre l'URSS. Parce que quand même, le grand objectif final d'Hitler, c'est la création d'un espace vital. L'espace vital, c'est où ? C'est en Europe centrale et orientale. Ça gommera tous les petits pays, hein, qui sont nés dans les années 20, hein, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, etc. Mais surtout, ça oblitère toutes les régions les plus riches de la Russie. Et donc l'affaiblissement durable, un, de la Russie en tant que puissance, deux, de l'URSS en tant qu'idéologie, hein, et porteuse du communisme.
Et ce qui nous amène en fait très logiquement un an avant le fameux pacte germano-soviétique de 1939, hein, dont on se souvient si bien dans les manuels d'histoire et dans l'historiographie officielle, ça nous amène un an avant au pacte de non-agression que la France et l'Angleterre signent avec les nazis en 1938, et ça s'appelle les accords de Munich.
Et c'est les accords de Munich. Ce qui n'était pas prévu au programme, effectivement, c'est cette non-agression germano-soviétique qui, là, du coup, est interprété aujourd'hui comme, effectivement...
Il y a Hitler et Staline, c'est pareil, le goulag, c'est comme les camps, et le communisme, c'est pareil que le nazisme, c'est pas bien.
Alors que c'est purement tactique, hein. Des deux camps, ils savent que tôt ou tard, ils vont s'affronter. Hitler pensait plus tôt, Staline pensait plus tard, mais ils savaient qu'ils allaient s'affronter, hein. Dans l'objectif d'Hitler, c'est clair, c'est avoir le front Est tranquille, pour pouvoir écraser la France très très rapidement, écraser la France et l'Angleterre très rapidement, et ensuite se retourner contre l'URSS. Pour l'URSS, c'est le moyen de gagner du temps. Pourquoi ? Parce que l'URSS est complètement désorganisée, elle a besoin de temps pour s'organiser, et notamment d'organiser le transfert de ses industries plus à l'Est, parce qu'elle sait qu'elle va devoir subir les assauts des Allemands.
Alors finalement, ce fameux traité de Versailles, on a fait en sorte que les populations françaises y croient plus ou moins, mais finalement, nos dirigeants, ils y ont jamais vraiment bien cru.
C'est un traité qui est très clairement un traité de mauvais compromis. Clémenceau a imposé des clauses extrêmement dures, dont il savait qu'elles allaient satisfaire en partie l'opinion publique française, parce que 1,4 million de morts, il faut quand même ramener des choses, quoi. C'est pas seulement l'Alsace-Lorraine. Il faut quand même aussi aller dans le sens de l'opinion publique à qui on avait dit que c'était la der des der. Et donc ces clauses extrêmement dures devaient être la garantie de la der des der. Sauf que ces clauses extrêmement dures ont fait que la diplomatie française s'est écroulée, le système d'alliance française s'est écroulé, et qui a fait que, non appliquées ou mal appliquées, hein, que ce soit les clauses financières, les clauses militaires, qui sont peu ou mal appliquées, n'ont fait que nourrir une humiliation du côté allemand et ont renforcé progressivement une opinion publique qui va basculer avec la crise économique, va basculer dans un nationalisme agressif.
Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört.
Et voilà comment la Seconde Guerre mondiale va couver en Europe avant d'éclater en 1939, 21 ans après la fin de la première.
Ils nous ont enfin rendu l'Alsace et la Lorraine, eux qui raillaient la France et qui disaient jamais qu'ils n'avaient su là-bas que déchaîner la haine. Mais le cœur de l'Alsace était resté français. Oui, le cœur de l'Alsace était resté français.
La suite, c'est avec Daniel, avec qui on va revenir sur l'humiliant traité de Versailles, qu'on va ici étudier via le regard de l'un de ses plus farouches critiques de l'époque, le célèbre économiste John Maynard Keynes, celui-là même qui a donné son nom au keynésianisme, doctrine économique qui, en gros, hein, prône l'intervention de l'État dans l'économie pour juguler les travers du capitalisme. Mais comme on va le voir, le très honorable Keynes, pur produit de la bourgeoisie britannique, était tout sauf un socialiste et encore moins un communiste. Si Keynes voulait un contrôle de l'économie, c'était surtout pour faire perdurer, pour sauver le système capitaliste de ses propres dérives. On se souvient moins du Keynes qui critique très vivement le traité de Versailles dès 1919, comme nous le rappelle cet article du Monde diplomatique de juillet 2019, Daniel.
Keynes et le prix de la paix, le traité de Versailles à 100 ans. Un article d'Alain Garrigou et de Jean-Paul Guichard. Un siècle après sa signature, le 28 juin 1919, le traité de Versailles est généralement abordé à la lumière de ses conséquences supposées. Accablant l'Allemagne, il aurait favorisé la montée du nazisme. Les conditions concrètes de l'élaboration du traité de Versailles sont en revanche souvent négligées, et notamment le rôle de certains personnages clés, tels l'économiste John Maynard Keynes.
Keynes n'est pas un socialiste. C'est un partisan de ce qu'il appelle l'économie classique, c'est-à-dire l'économie libérale, capitaliste. Là, il réagit à la crise de 1929. Et il le dit, et il l'écrit, « Tout mon propos n'est pas de m'opposer au capitalisme, mais de le sauver. » Et là, c'est donc les années post-1929. Le Keynes 1919, c'est le Keynes qui se pose la question de quels sont les intérêts de la Grande-Bretagne qui vient de gagner la guerre avec la France contre l'Allemagne. Mais peut-être que dans les deux cas, c'est le point de vue d'un Britannique qui est né à Cambridge en 1883, qui est mort en 1946. Un homme du 19e siècle qui voit cette période de développement du capitalisme industriel et qui en voit aussi les ravages et qui propose, son idée c'est de sauver la mise à ce qu'il appelle l'économie classique, traduisons le capitalisme libéral. Il explique que par rapport aux folies d'un libéralisme débridé, il faut introduire des systèmes de pondération et de régulation. Et il ajoute même dans un de ses écrits, il n'y a bien que les spéculateurs de Wall Street pour me prendre pour un ennemi du capitalisme.
Wall Street. Non, mais c'est bien comme le lapsus Wall Street, c'est parfait. Démasqué, Daniel.
Ah oui, absolument, absolument. Donc. Et alors, il faut voir qui Keynes, c'est un homme de très bonne famille. Hein. Il est diplômé du King's College de Cambridge, de l'école d'Eton, et il meurt Lord Keynes de Tilton. Donc c'est pas un bolchevique. Hein. Il est typique de l'élitisme britannique du 19e siècle. Alors c'est un homme public, c'est un professeur, c'est un essayiste, un économiste. Et là, ce Keynes dont on va parler, c'est le haut fonctionnaire du Trésor britannique qui participe aux négociations qui vont aboutir au traité de Versailles, comme plus tard, en 1944, il sera le représentant britannique du Sénat. Alors tout le monde le révère en 1944, et il sera le représentant de la Grande-Bretagne lors de la conférence de Bretton Woods, qui mettra au point le système monétaire international après la Seconde Guerre mondiale, où d'ailleurs Keynes sera influent, mais n'obtiendra pas toutes les garanties, parce qu'entre-temps, la Grande-Bretagne est moins puissante que les États-Unis. Il n'obtiendra pas tout ce qu'il veut, mais il y a quand même la même idée. Un système monétaire international fondé sur les talons or, c'est un système monétaire régulé, qui a des règles. Keynes est un économiste qui pense que le capitalisme est le meilleur système possible. Il est furieusement antisocialiste, anti-bolchevique, il est même un petit peu antisémite, semblerait-il. Mais il pense qu'il faut encadrer et cadrer les folies du libéralisme pour lui permettre de survivre. Il le dit aussi à l'issue de la Première Guerre mondiale, à l'issue de la crise de 1929, et entre-temps, il y a eu quand même un os dans le potage. La Révolution russe et la jeune Union soviétique qui se présente comme un contre-modèle, et dans les années 20-30, c'est un contre-modèle crédible qui fait très peur au monde occidental. Pas seulement parce qu'ils craignent d'être envahis, mais que imaginer qu'une expérience non capitaliste réussisse, c'est terrifiant. C'est le ver dans le fruit, tout peut s'écrouler. Et donc c'est ça, Keynes. Alors, il participe, en tant que membre du Trésor britannique, aux négociations de 1919, celles qui font suite à la défaite de l'Allemagne. Keynes est présent dans les négociations comme représentant du Trésor britannique. Et toutes ses interventions vont dans le sens « il faut être clément avec l'Allemagne ». Keynes, avant 14, était assez favorablement impressionné par l'Allemagne d'avant 14, l'Allemagne de Guillaume II. Il trouvait que c'était quand même un modèle d'efficacité, de cohésion et de réussite. N'oublions pas que l'Allemagne de Guillaume II, dès l'époque de Bismarck, justement, met au point un certain nombre de protections sociales. L'État-providence, l'expression vient d'Allemagne. Ensuite, elle sera traduit en anglais « welfare state », en français « état-providence ».
André nous l'a souvent raconté, puisque son grand-père Lorrain, qui était à l'époque dans le Reich allemand, était très admiratif du système social allemand, et il y a eu une espèce de régression quand ils sont revenus dans le giron français.
Absolument. Ceci dit, Bismarck et le système impérial allemand, c'est pas pour un souci social. L'idée, c'est de repousser, de contrôler, de faire pièce au parti socialiste allemand qui est en pleine expansion. Mais enfin, le résultat, c'est ça. Voilà. Donc il est, selon les auteurs, un admirateur de cette Allemagne de l'époque de Guillaume, et il explique qu'il ne faut pas enfoncer trop l'Allemagne sur le plan financier, et il y a un double souci. C'est là où on retrouve la permanence britannique. Si on enfonce trop l'Allemagne sur le plan financier, en arrière-plan, on y reviendra, c'est le problème des réparations, ou le problème des annexions. Hein, la France, à un moment, souhaitait annexer toute la rive gauche du Rhin. Hein. Clémenceau n'était pas partisan de ça. Mais Foch ou Poincaré voulaient dire l'Allemagne paiera, on annexe une partie de l'Allemagne. Les Britanniques et Keynes sont opposés à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle continuelle dans la vision britannique du monde depuis la fin du Moyen-Âge. C'est qu'il ne doit pas y avoir de puissance dominante sur le continent européen qui puisse être une gêne pour la Grande-Bretagne et un danger pour son empire colonial. Le double raisonnement, un raisonnement économiste, il faut sortir de la guerre et le but de sortir de la guerre, c'est retrouver la prospérité. On ne peut pas retrouver la prospérité en effondrant de manière terrible une partie majeure de l'Europe. D'autre part, il y a un autre souci, c'est le souci d'équilibre. La Grande-Bretagne ne veut pas de puissance dominante. Or, en 1918, si l'Allemagne est effondrée, dépecée, etc., quelle est la puissance dominante ? La France. Si bien que, n'ayant pas obtenu satisfaction, puisque le principe des réparations est adopté par le traité de Versailles, le principe des réparations, c'est-à-dire des indemnités de guerre, hein, l'Allemagne doit payer des réparations aux pays vainqueurs. Alors, en désaccord avec l'adoption officielle du principe des réparations, Keynes démissionne. Il démissionne en disant que, de toute façon, les réparations sont trop lourdes. C'est très étrange, parce que le traité de Versailles établit le principe des réparations, mais pas son montant. C'est négocié après. Eh bien, avant même que le montant soit acquis par une négociation entre les vainqueurs, Keynes dit « non, c'est trop lourd, ça ne va pas ». Et il va donc ensuite, se retirant de cette position officielle, faire dès 1920, le traité de Versailles, c'est juin 1919, un petit opuscule qui s'appelle « Les conséquences économiques de la guerre ». C'est une sorte de pamphlet contre les conditions faites à l'Allemagne par le traité de Versailles. À l'époque, la lecture a provoqué quand même beaucoup de polémiques, en particulier en France, évidemment. D'une part parce que là-dedans, Keynes, qui est un écrivain assez subtil et plein d'humour, fait des portraits au vitriol des participants. Alors Foch, par exemple, il traite de paysan français, comme une sorte de gros con. Il oublie quand même de dire qu'il est polytechnicien.
J'ai vu des gros cons polytechniciens, ouais. Daniel.
Absolument. Alors de manière très curieuse, il épargne Clémenceau. Clémenceau veut aller beaucoup moins loin que Foch ou Poincaré contre l'Allemagne. Donc ça alimente la chronique en 1919. Mais au fond, c'est pas l'essentiel. Néanmoins, ça montre ses préjugés d'aristocrate britannique. Quels que soient les mérites ou les torts de Keynes, c'est d'abord un aristocrate britannique. Alors sur le fond, il réitère son hostilité au principe des réparations. Et d'ailleurs, il donne un argument par rapport à la France. Il dit, mais regardez ce qui s'est passé en 1871. L'Allemagne écrase Napoléon III, la France est terriblement vaincue, et en signant le traité de Francfort de 1871, la France doit payer une indemnité de guerre, comme les réparations, et au fond, les indemnités de guerre du traité de Francfort de 1871 sont une des causes de la crise de 1873. Vous voulez recommencer ? Quelque part, une partie de l'histoire lui donnera raison. Puisque le principe des réparations est acquis en 19, passons sur les montants astronomiques d'ailleurs dans les deux cas, en 71 comme après la Première Guerre mondiale, sont fixés, mais en 1921, il y a bel et bien une crise économique dont une des causes, c'est effectivement ça, et l'effondrement de l'économie de la République de Weimar, de l'Allemagne, en 1923, avec, vous savez, les brouettes de marque pour acheter le pain, c'est aussi une des conséquences de ça. Donc voilà, c'est un esprit brillant, intelligent, un fin polémiste, et qui sait toucher juste au bon moment. En même temps, c'est un point de vue typiquement anglo-saxon. Et cela va avoir de lourdes conséquences. En particulier, les positions de Keynes sont un des éléments qui poussent les États-Unis à ne pas ratifier le traité de Versailles. Et alors là, c'est super lourd de conséquences, parce que la non-ratification du traité de Versailles par le Congrès américain ouvre une brèche sur la violation du traité et la course, la marche à la guerre, faite par Hitler. Hitler a parfaitement compris qu'il pouvait faire presque tout ce qu'il voulait, les États-Unis n'interviendraient pas. Et effectivement, ils ne sont pas intervenus, parce qu'en 1941, c'est Hitler qui déclare la guerre aux États-Unis au nom du pacte tripartite avec le Japon et l'Italie. Les États-Unis ne voulaient pas intervenir. Et évidemment, ça lui laisse les mains assez libres pour Hitler dans les années 30 et les années 40.
Hitler pensait d'ailleurs qu'il aurait aussi les mains libres du côté du Royaume-Uni, oui, dont l'aristocratie et la bourgeoisie étaient tout à fait conquises par les nazis. Ce fameux Édouard VIII, le fameux roi nazi dont on a raconté que histoire d'amour, Wallis Simpson, la roturière, machin, tout ça, pas du tout. Comme tu l'expliquais tout à l'heure, traditionnellement, depuis toujours, les Anglais ne veulent pas qu'une puissance continentale soit trop puissante. Finalement, une partie de la gentry, des aristocrates anglais, se rendent compte que l'Allemagne nazie va devenir beaucoup trop puissante. Et c'est ce qui explique aussi l'apparition d'un grain de sable. Comme nous, on a eu un grain de sable qui s'appelait De Gaulle. Il y a un grain de sable qui s'appelle Churchill et qui dit hop, 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 les teutons vont devenir beaucoup trop puissants. Et quitte à passer dans le futur sous un monde de domination, au mieux, vaut mieux que ce soit une domination de gens qui parlent la même langue que nous, genre les États-Unis.
Tu résumes un peu, mais en gros, ça ressemble beaucoup. Alors, un autre élément très puissant qui explique Belgique. Ceci, c'est quand même la crainte du bolchevisme.
L'historienne qu'on aime beaucoup, Annie Lacroix, pondère pas mal ce truc-là. Certes, il y a ce fâcheux exemple idéologique qui risquerait de faire tache d'huile. Octobre 17 en Russie, on a vu que ça a pu engendrer la révolution spartakiste en Allemagne. Mais enfin, ce qu'expliquait Lacroix surtout, c'est que la Russie du tsar était la vache à lait du capitalisme occidental et que les banquiers et financiers anglais, français, allemands et autres voulaient remettre la main sur la vache à lait russe.
C'est pas contradictoire, absolument. Alors, les auteurs soulignent les lourdes conséquences, en particulier cette non-ratification. Je crois qu'il n'y a pas que ça, mais il a donné des arguments pour ne pas ratifier. Et ça explique aussi comment les années 20 et 30, sur le problème des réparations, qui joue le rôle d'intermédiaire, principalement entre la France et l'Allemagne, pour renégocier le montant des réparations? Les États-Unis. Le plan Davis et le plan Young, qui à chaque fois abaisse un peu les montants, étale les remboursements, etc., etc. Et au fond, quelle est l'arme idéologique qui est fournie à toute cette politique? Eh bien, c'est Keynes. Ça donne un aspect un peu différent par rapport à l'homme du welfare state. Mais c'est différent, mais ça ne me paraît pas contradictoire. Le point commun, c'est un aristocrate britannique. Voilà. Alors par contre, évidemment, vous imaginez bien que ça, c'est très 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 mal apprécié en France. Alors, les auteurs de l'article, je vais vous lire, ils citent un petit passage d'un historien que je ne tenais pas en très forte estime, c'est Jacques Bainville, l'historien de droite monarchiste, etc. Mais Bainville, et après la lecture du fameux pamphlet de Keynes, dit « L'ouvrage retentissant de Keynes est un pamphlet d'apparence scientifique qui a obtenu un succès de curiosité et de scandale par les paradoxes dont il est rempli. Il est devenu le manuel de tous ceux qui désirent que l'Allemagne ne paie pas ou paie le moins possible les frais de son entreprise manquée. Dans son parti pris évident pour l'Allemagne, la taille de Keynes est déjà jugée comme néfaste pour la France. Par contre, j'ai aussi découvert l'existence d'un personnage, d'un économiste français qui s'appelle Étienne Montout, qui est un jeune économiste résistant, qui va d'ailleurs être tué. Son ouvrage paraît post-mortem, en 1946, et là, Étienne Montout démonte complètement tout le système de Keynes, montrant que derrière le raisonnement financier, économique, il y a, selon lui, une très douteuse fascination pour l'Allemagne de Guillaume II, ou pour une Allemagne postérieure. Donc le personnage, effectivement, est plus complexe que contradictoire. Hein. Et donc il y a une dénonciation chez Montout, par exemple, du fait que les thèses de Keynes alimentent, justifient, facilitent, légitiment, c'est peut-être pas la cause, mais légitiment les faiblesses de la résistance à l'Allemagne nazie. Voilà, donc des choses comme ça. Et ça a donc peut-être bien une importance bien plus considérable sur la situation des années 20-30 qu'on peut l'imaginer. En même temps, la permanence de cette vision typiquement british, typiquement britannique, sur l'équilibre des puissances en Europe. Et en voyant cet aspect-là de la pensée de Keynes, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quelque chose de bien plus contemporain, c'est-à-dire la question du Brexit. Bon, alors, on nous a expliqué, assez couramment, oui, Brexit, 52% de citoyens britanniques qui votent pour sortir de l'Europe, quelle horreur, quelle erreur, 52% d'ivrognes, de crétins, d'analphabètes, de xénophobes, de racistes, vous avez suivi le déchaînement, 52%? Non, il y a une constante dans l'histoire britannique, c'est que, à nouveau, dans le cadre de l'Union européenne, du début des années 2000, et surtout, après la crise de 2008, l'Union européenne est une Europe allemande. Et ça, la Grande-Bretagne ne peut pas le supporter. Alors, je vous signale que Boris Johnson est un biographe de Churchill.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette émission spéciale 1919 que vous pouvez réécouter sur notre site polemix-et-la-voix-off.com. Et surtout, méfions-nous des cocoricos et des va-t-en-guerre qui nous désignent de soi-disant ennemis. La guerre n'est qu'un gros business dont les peuples sont toujours victimes. Comme le disait Anatole France, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels.
Salut.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G.
Vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première radioconférence de la saison du labo des savoirs. Effectuer des modifications génétiques ciblées dans tout type de cellules. Voilà ce que permet l'édition.